Venez comme vous êtes. Bien sûr, vous avez reconnu au travers de cette vidéo, peut-être ces quelques mots, le slogan d'une chaîne de restaurants, de fast-food. Et l'objectif au travers de ce slogan, c'est de créer un environnement accueillant et inclusif où tous les clients sont acceptés tels qu'ils sont, sans égard à leur apparence, leur statut social, leur origine. Et c'était l'objectif aussi de cette vidéo, de montrer comment des personnes ont poussé loin la prise en compte de ce slogan et ces personnes qui viennent à cheval, tels qu'ils sont, pour commander à manger. D'autres voilà, sont venus dans des tenues un petit peu particulières aussi. Donc voilà, il y avait vraiment une prise au mot de certains qui, par humour, ont été parfois un petit peu loin pour voir comment la chaîne réagirait. Mais en tout cas, aux échos, tant que c'est resté dans la limite du raisonnable, c'est bien passé. Alors, venez comme vous êtes. Est-ce que ce serait un slogan valable avec la foi chrétienne? Est-ce que on pourrait dire que nous sommes invités à venir à Jésus-Christ tel que nous sommes? Est-ce que ce seraient des mots que Jésus pourrait prononcer? Venez à moi tel que vous êtes. Oui, oui, très certainement, sans égard à notre apparence physique, notre statut social, notre origine. Nous sommes invités à venir à Christ tel que nous sommes, avec nos péchés quels qu'ils soient, nos joies, nos difficultés. En un sens, le salut est pour tous. Mais ce slogan n'est pas complet, parce que Jésus ne désire pas nous laisser tels que nous sommes sur le plan spirituel. Alors on a vu dans cette petite série sur le Saint-Esprit, l'action, les œuvres du Saint-Esprit, combien il a été à l'œuvre pour notre conversion, quel rôle il a joué dans notre salut. On a entendu dimanche dernier le rôle que le Saint-Esprit a pris pour nous équiper en tant que chrétiens avec des dons pour nous édifier les uns les autres, nous permettre de grandir les uns les autres, dans son Église. Par son Esprit, on va voir aussi ce matin que Dieu vise pour chacun de nous une croissance spirituelle. En fait, quand on regarde tout le vivant autour de nous, on se rend compte qu'il y a ce principe de la croissance dans les fleurs, les plantes, les arbres. Et même un enfant qui naît est destiné à se développer, à grandir, à croître. Et la nouvelle naissance spirituelle est aussi un point de départ d'un développement qui s'appelle la sanctification. Dans toute sa parole, Dieu se révèle comme étant un Dieu qui est saint, pur, parfait, sans défaut. Et sa volonté, c'est que nous le soyons aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Alors ce mot « sanctification » vient de ce mot « saint » qui ne désigne pas avant toute chose une perfection morale, mais qui désigne ce qui est consacré à Dieu pour lui appartenir, ce qui a été mis à part pour Dieu, parce que Dieu est saint. Alors ce matin, on va voir trois aspects de cette sanctification au travers de la parole, essentiellement du Nouveau Testament. On voit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, vous êtes déjà saint. On peut parler de sanctification initiale. Quand on parle de la conversion, on a vu que dès qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, Dieu est venu habiter en nous par son Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit. Nous recevons ce Saint-Esprit qui atteste que nous appartenons à Christ. Nous avons été mis à part pour Dieu. En Christ, nous sommes quelque part déjà saints. Il s'agit d'une action déjà réalisée. On peut regarder ce que l'apôtre Paul affirme aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Il leur écrit et il leur dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Quand on parcourt un tout petit peu la lettre aux Corinthiens, on se rend compte que c'était chaud. C'était chaud dans l'Église. Il y avait des tensions, il y avait des problèmes d'unité. Pourtant, Paul écrit à ces chrétiens bien imparfaits, comme nous le sommes, qu'ils sont déjà saints. On voit aussi dans la lettre aux Hébreux, l'auteur qui dit, et qui écrit aussi à des chrétiens, « C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » D'autre part, à plusieurs reprises, on voit que quand Paul écrit toujours aux chrétiens de différentes églises, il les salue en introduction de leurs lettres par des choses comme « à tous les saints qui sont à Éphèse », « à tous les saints qui sont à Philippe », « en Achaïe », etc. Ces chrétiens étaient donc des membres d'églises bien imparfaits, mais parce qu'ils avaient accepté ce pardon offert par Jésus-Christ, ils faisaient déjà partie de son peuple. Ils étaient déjà saints. En fait, on parle de cette sainteté-là comme la sainteté qui nous est acquise par notre position en Christ, par le fait qu'on est unis à Christ. La sainteté n'est donc pas une qualification réservée à une certaine élite de chrétiens, qui seraient des modèles dans leur manière de vivre pour Dieu, qui auraient accompli des grandes choses pour Dieu et qui seraient en quelque sorte comme une élite spirituelle, la crème de la crème des chrétiens. Non, de ce qu'on vient de voir dans la parole de Dieu, dans ces quelques versets, là, être saint, c'est la position commune de toutes celles et ceux qui ont placé leur foi en Christ, qui ont reçu son esprit et qui appartiennent à Dieu. Vous êtes déjà saint, je suis déjà saint. En fait, on peut imaginer que si l'apôtre Paul écrivait à notre Église aujourd'hui, il écrirait en début de sa lettre très certainement quelque chose comme « aux saints, à tous les saints qui habitent à Christ ». Oui, mais. Cette vérité n'est pas toujours évidente à assimiler, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, nous réalisons combien dans notre vie de tous les jours, nous ne sommes pas vraiment saints. Ma femme pourrait vous le dire. Mes enfants pourraient vous le dire aussi. Mes amis aussi. Et si vous vous tenez vous-même en haute estime à ce sujet, puis-je vous suggérer de questionner vos proches ? Ceci s'explique par le fait que, oui, nous sommes déjà saints, mais en même temps, nous ne sommes pas encore saints. Déjà saints, mais pas encore. Un schéma que l'on retrouve régulièrement dans la parole de Dieu. Mais pourtant, cette sainteté initiale que Dieu a opérée dans nos vies par son Esprit est le point de départ fondamental pour vivre la suite. Je reprends une illustration qui n'est pas de moi, d'un auteur qui disait « Si j'achète une maison, elle est à moi dès l'instant où l'acte de vente a été signé. » Et je pense que ça parle à plusieurs d'entre nous ici. « Et où les clés m'ont été remises. Cependant, pour qu'elle devienne mienne, il faut que je la débarrasse des objets laissés par l'ancien propriétaire, que je fasse quelques aménagements, que j'y mette mes meubles, mes photographies de famille, mes décorations. Alors, l'ami qui en franchit le seuil se rend compte qu'il est chez moi. » On voit que ces deux aspects se complètent. En fait, je ne pourrais pas apporter les modifications nécessaires à la maison, à ma maison, avant d'en être le propriétaire. Et d'un autre côté, ce serait tellement surprenant de l'acheter sans y apporter les transformations nécessaires pour me sentir chez moi. En Jésus-Christ, nous sommes donc déjà saints et en même temps, nous avons besoin d'être débarrassés de ce qui reste de notre ancienne nature et équipés des qualités nécessaires pour servir Jésus-Christ. Après notre conversion, donc, nous entrons dans un processus appelé la sanctification progressive. La sanctification progressive, où nous sommes transformés jour après jour, où, et je cite un auteur, « Nous devenons de moins en moins comme nous étions et de plus en plus comme Dieu désire que nous soyons. » L'apôtre Pierre dit en enfant obéissant, « Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Par ailleurs, l'auteur aux Hébreux dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » J'ouvre une toute petite parenthèse. Ce verset n'est pas... le sens n'est pas qu'on devient... on sera sauvé par... ces actes de sanctification. Mais voilà, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est déjà saint, en fait, on va vivre cette recherche de la sainteté. Alors, il y a une question qui se pose. Qui est-ce qui est à l'œuvre dans ce processus de sanctification ? Qui est à l'œuvre dans ce processus de sanctification progressive de nos vies? La réponse, c'est Dieu en premier, l'acteur principal, par son esprit qui opère cette transformation en nous. C'est lui qui produit cette œuvre. Mais on le voit au travers de la parole, l'être humain est aussi impliqué de manière active dans ce processus. On pourrait dire qu'il coopère avec Dieu dans cette œuvre. Il y a deux définitions qui ont été données par théologiens, des pasteurs. L'une dit, et elles se rejoignent, elles sont complémentaires, hein, « La sanctification est une œuvre de Dieu à laquelle nous participons activement pour devenir de plus en plus comme Dieu veut que l'on soit. » L'autre définition, « La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. » On retrouve cette pensée, bien sûr, qui est fondée sur la parole de Dieu, avec l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de l'église de Philippe. En tant que personne déjà sainte, donc il les a salués en début, aux saints qui sont à Philippe, mais dans le développement de sa lettre, il dit à un moment donné, au chapitre 2, versets 12-13, « Mes chers amis, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Alors cela a deux implications pour nous. La première, c'est que il n'y a pas de place à la passivité dans nos vies. Je ne peux pas rester tranquillement sur ma chaise en disant au Seigneur « Enlève le péché qu'il y a dans ma vie ». Enseigner qu'il faut s'abandonner à Dieu pour se laisser sanctifier par lui serait grave et quelque part une incitation à la paresse. Travailler à notre salut, ça signifie déployer tous nos efforts pour vivre pour Dieu, pour chercher à le connaître, pour chercher à lui obéir. À plusieurs endroits, on voit que la Bible parle d'efforts. La Bible parle d'efforts, elle parle de volonté, elle parle de travail, de combat, de lutte pour mettre à mort notre péché et pour vivre d'une manière conforme à l'Évangile. Quand on parcourt le Nouveau Testament, on peut souligner toutes les explications aux croyants sur la manière de grandir à la ressemblance de Christ. Toutes ces exhortations, toutes ces recommandations morales visent à une plus grande sanctification dans un aspect ou dans l'autre de notre existence. Ça, c'est la première implication. Pas de place à la passivité. La deuxième, il n'y a pas de place pour l'orgueil ou la vantardise. Parce que nous voyons très clairement dans ce verset qu'on vient de lire que Dieu est celui qui produit en nous par son esprit le vouloir et le faire. C'est ce qui s'est produit lors de notre conversion où Dieu a changé les désirs de nos cœurs et nous a donné une volonté nouvelle pour lui obéir. En ce sens, personne ne peut dire « Je n'ai pas fait du bien à cette personne parce que Dieu ne m'en a pas donné la volonté, ni le faire. » Ce serait un raisonnement qui nous déresponsabilise et qui est contraire à nouveau à l'enseignement biblique. Nous dépendons totalement de Dieu. C'est lui qui nous donne par son esprit cette puissance pour combattre et mener la guerre au péché qui est en nous. En fait, on est dans un cercle vertueux où Dieu a transformé les désirs de nos cœurs qui nous amènent à chercher à plaire à Dieu. Et en même temps, quand on fait des bonnes actions, quand on lutte contre le péché, on ne peut jamais dire ben, « c'est grâce à moi » parce que ce désir, cette mise en route, en fait, c'est Dieu qui l'a produit dans ma vie. Donc, de toutes les manières, toute la gloire en revient à Dieu et à Dieu seul. Mais quand on parle de Dieu et de nous dans cette collaboration pour la sanctification, ce désir d'obéir à Dieu, on se doit de se poser cette question et de se dire, mais quelle est la source de motivation pour ressembler toujours plus à Christ? Quel est l'élément moteur? Qu'est-ce qui devrait nous motiver pour mener cette lutte contre le péché en nous? Pour chercher à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, pour chercher à ressembler davantage à notre Sauveur. Alors nous observons deux tendances, deux approches qui ne sont pas les bonnes dans le milieu chrétien et parfois présentes de manière même très insidieuse dans nos propres vies et qui sont en lien avec cette motivation pour obéir à Dieu. Cette première approche qui n'est pas la bonne, c'est l'approche légaliste. C'est celle qui s'appuie sur l'obéissance à la loi de Dieu, à ses commandements, pour en quelque sorte mériter Dieu. Mériter son affection ou pire que cela, mériter notre salut. C'est celle qui dit que nos œuvres, notre obéissance à Dieu contribuent en quelque sorte, à être un petit peu plus aimé de Dieu. Ou qui dit, ben, tu vois, tu es chrétien, maintenant tu dois le prouver. Et tu dois faire ceci, et tu dois faire cela. Nos œuvres et notre obéissance à Dieu ne sont jamais présentées dans la parole de Dieu comme quelque chose de méritoire aux yeux de Dieu. Deuxième approche erronée par rapport au commandement de Dieu, l'approche laxiste. C'est celle qui affirme que l'Évangile a mis fin à la loi de Dieu et qu'en ce sens, la grâce de Dieu nous dispense de la nécessité d'obéir au commandement de Dieu. Dieu ne veut pas une vie de règles, mais une relation d'amour. Quelqu'un a dit « L'Évangile a effectivement mis fin à une condamnation de la loi et accompli pour nous l'obéissance à la loi. Mais l'Évangile n'a jamais retiré l'exigence d'obéir à la loi. » Il est faux de penser qu'une relation d'amour puisse se vivre sans un certain nombre de règles. Et je nous renvoie simplement à une amitié ou à la vie d'un couple fondée sur cet amour, mais il y a nécessairement des règles des règles qui vont permettre de garder ce cadre et permettre à cet amour de grandir. Alors, si l'approche légaliste pour obéir à Dieu n'est pas la bonne, si l'approche laxiste n'est pas la bonne, quelle est la bonne motivation? Comme toutes les autres bénédictions de la vie chrétienne, notre désir d'obéir à Dieu, comme toutes les autres bénédictions de la vie chrétienne, devrait puiser sa source dans la croix de Jésus-Christ. On ne souhaite pas ressembler toujours plus à Christ dans le but de gagner du mérite aux yeux de Dieu. C'est plutôt que pleinement conscient du regard favorable que Dieu porte désormais sur nos vies, grâce à Jésus, alors nous voulons vivre de toutes nos forces pour plaire à celui qui nous a sauvés. Nous sommes déjà saints, nous ne sommes pas encore saints. Et je termine par cette réalité. Un jour, nous serons saints. On peut parler de sanctification achevée. Est-ce que cette recherche, cette croissance dans la sainteté s'achèvera avant la fin de notre vie sur terre? Il y a des mouvements qui le pensent, et je ne le pense pas à titre personnel, parce qu'on le voit de manière très clairement dans la Bible, que le péché ne disparaît jamais complètement de nos cœurs dans notre temps de vie sur cette terre. Cette sanctification, ce progrès dans la sainteté ne sera donc jamais achevé durant notre vie terrestre. C'est quelque chose vers lequel on tend, mais c'est un objectif que nous n'atteindrons pas sur cette terre. Mais ça ne doit pas nous décourager. Notre sanctification actuelle est une étape en vue de notre perfection future qui se produira lorsque nous mourrons ou quand Jésus reviendra sur terre. Ce moment où notre âme sera rendue parfaite et où nous recevrons un nouveau corps, un corps de résurrection. L'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens, aux saints qui sont à Philippe, qui les encourage à faire fructifier leur salut, leur dit aussi « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Alors j'aimerais simplement conclure par ce schéma qui résume en quelque sorte ce que l'on vient de voir, de partager. Il nous montre comment la conversion marque le début de notre sanctification, notre entrée dans le royaume de Dieu, notre entrée dans cette vie avec Dieu. Mais cette sanctification continue à augmenter tout au long de notre vie chrétienne et elle sera rendue parfaite à la mort ou au retour de Jésus-Christ. Et pour terminer, j'aimerais juste vous lire un extrait de ce livre de Benjamin Higgins. J'ai changé les termes parce qu'il utilise le « tu » et je préfère utiliser le « nous ». C'est dans le contexte du livre, donc il n'y a pas de souci. Mais dans ce contexte-là, je change les termes en parlant de « nous » parce que nous sommes tous concernés. Quelle est notre attitude vis-à-vis du péché ? Est-ce qu'il ne fait que nous attrister ou est-ce que nous sommes activement en train de le combattre ? Il est facile de rester passif vis-à-vis du péché parce que nous vivons dans une culture où nous n'aimons pas faire ce qui est difficile. Nous voulons éviter tout ce qui demanderait un effort de notre part. Mais ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Si les sportifs de haut niveau raisonnaient ainsi, ils ne s'entraîneraient pas beaucoup. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Nous devons lutter contre le péché, qui nous fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Le puritain John Owen a dit un jour, « Mets le péché à mort, ou c'est lui qui te mettra à mort. » Contrairement à ce que l'on peut croire, le péché n'est pas plus fort que nous. Même un caractère que nous traînons depuis des années peut changer par la grâce de Dieu. Puisque nous sommes morts au péché, le péché ne doit plus avoir d'emprise sur nous. Nous n'en sommes plus esclaves, affirme Romains 6:6. Nous sommes donc appelés à nous en débarrasser activement, Romains 6:12-13. Peut-être que nous sommes découragés par la lenteur de nos progrès dans la vie chrétienne. Et je te fais un petit clin d'œil, Olivier, par rapport à ce que tu disais, que tu n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup progressé dans cette ressemblance à Christ au travers de ces dernières années. C'est peut-être quelque chose que nous ressentons ce matin aussi. C'est vrai que souvent, nous n'avons pas vraiment l'impression de grandir. Et nous avons même parfois l'impression de reculer. Mais disons-nous que c'est un peu comme une promenade. Nous sommes partis depuis quelque temps déjà. Et nous n'avons pas l'impression d'avoir beaucoup progressé, beaucoup avancé. Mais en fait, si nous regardons en arrière, ou si nous jetons un œil à une carte, nous verrons tout le chemin que nous avons déjà parcouru. C'est pareil pour notre vie chrétienne. Si nous prenons du recul, nous pourrons voir que, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus comme nous étions il y a quelques années ou quelques mois. Cela nous donne de l'espoir pour dire que, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas ce que nous serons dans quelques années ou dans quelques mois. Et il termine par ce verset que j'ai lu pour nous encourager. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je vais prier pour terminer. Seigneur, on est tout émerveillé quand on voit tout ce que tu as accompli pour nous. Et on a pris ce repas tout à l'heure qui nous rappelle encore cette croix où tu es monté, où tu as pris tous nos péchés, passés, présents, futurs. Et combien tu as permis, tu nous as fait cette grâce, et on l'a aussi entendu à travers du témoignage d'Olivier et Myriam, aujourd'hui, de te révéler à nous sur le chemin de nos vies. Tu nous as attirés à toi, et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as rendus déjà saints par notre union, par la foi en Jésus-Christ. Merci pour cette réalité aussi à laquelle on est confronté et qui nous rappelle que parce qu'on a été sauvé, on a ce désir de chercher à te ressembler toujours plus. Merci pour ce rappel que tu es celui qui produit cette œuvre en nous, qui a transformé nos désirs pour des désirs qui cherchent à honorer, à te suivre, à vouloir ce que toi tu veux pour nous. Et Seigneur, on se rend compte que ce n'est pas toujours simple, qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat, parce que notre cœur, qui est encore marqué par ce péché, nous entraîne et veut nous amener ailleurs. Et il y a une tension qu'on peut ressentir. Et Seigneur, ben, merci pour ton œuvre, ton action, parce que tu produis en nous ce vouloir et ce faire de chercher à vivre pour te plaire, pour t'honorer, pour te rendre gloire. Merci pour cette magnifique promesse, Seigneur, aussi qu'un jour, cette sainteté sera achevée, on sera parfaitement saint, avec ce nouveau corps, avec cet esprit régénéré, totalement régénéré, et on sera dans cette éternité avec toi. Seigneur, je te prie pour celles et ceux ce matin qui sont peut-être pas encore rentrés dans ton royaume, je te prie que tu les appelles, que tu ne les lâches pas, Seigneur, et que tu continues de les attirer à toi et leur révéler combien tu les aimes, combien tu aspires à ce qu'ils puissent vivre cette vie avec toi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux sur cette terre. C'est ce pourquoi on a été créé. Seigneur, je te prie pour celles et ceux parmi nous, pour nous tous en fait, qui sommes en lutte avec l'un ou l'autre des péchés, avec l'un ou l'autre des traits de caractère, qui, on le sait, ne sont pas à ta gloire, à ton honneur. Je te prie de nous faire cette grâce de nous donner de progresser, peut-être de nous libérer, de nous transformer, Seigneur, de certaines de ces choses. Et là encore, on veut s'en attendre à toi. Donne-nous aussi de faire des choses, d'avoir à cœur de faire des choses aussi qui t'honorent. Et pardon pour toutes les fois où on ne fait pas non plus le bien qu'on devrait faire, mais qu'on reste juste passif, à rester dans notre confort. Merci parce que tu as porté tout cela, Seigneur, sur cette croix. Je te prie de nous bénir encore et qu'on puisse se rappeler cette promesse que tu es fidèle et que si tu nous as sauvés, tu vas continuer de nous conduire dans ce processus. Tu es celui qui reste aux manettes et qui va nous amener à cette ressemblance parfaite à Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.